Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Gédard, le 28 novembre 1991.
Nous allons entrer dans cette recherche qui, je crois, au plan philosophique, est comme le sommet. C'est intéressant, du reste, de voir que quelqu'un comme Heidegger le reconnaît. Quand il s'agit de l'être, il regarde Parménide. Quand il s'agit de l'entelecheia, il regarde Aristote et dit que c'est le sommet de toute la philosophie grecque. Quand on regarde Thomas d'Aquin, si Thomas d'Aquin revient à Aristote, c'est à cause de l'acte. Il a compris d'une manière très, très profonde. Cette découverte de la fin dans l'ordre de l'être. Si la découverte de la fin cause des causes, est-ce qu'il y a de plus pénétrant, de plus percutant, découvrir la fin au niveau de l'être, c'est vraiment le point ultime de la philosophie. Après, il y aura toutes les conséquences. Mais c'est extrêmement intéressant de voir que on découvre cela, toute la philosophie prend sa dimension plénière, et si on ne découvre pas, la métaphysique reste à un niveau de haut plateau, pas plus. Et la causalité efficiente reprend un pouvoir dominant sur toute la pensée, ou la cause efficiente, ou la cause exemplaire. Platon, la cause exemplaire. Platon n'a pas pu découvrir la causalité finale de l'être. C'est la limite de Platon, ça. Évidemment, très peu aujourd'hui le disent. Je suis tout à fait d'accord en disant ça que Aubank, qui est le spécialiste officiel d'Aristote, ne dit pas ça. Parce qu'il n'a pas vu, il n'a pas compris. Il n'a pas compris cette recherche de la finalité. Je comprends du reste que c'est très difficile. On a 4, 5 siècles sur le dos. Redécouvrir la finalité. Et le démon est très astucieux. Il s'y prend. Ça y prend depuis longtemps à faire que la découverte de la finalité n'existe plus. Les gens ne veulent plus chercher ça. Je me souviens, c'était quelqu'un qui était à l'ONU et qui avait quand même un certain sens de la philosophie. Elle disait, c'est très curieux d'écouter les interrogations et les recherches. Seule l'Inde pose la finalité. Les autres, toujours le comment. Le comment de l'efficacité, le comment de la cause efficiente. Et ça, je crois que c'est très juste. C'est que très peu, les gars, cherchez dans votre vie, très peu posent de problème par le problème de la finalité. Qu'est-ce qui me permet d'atteindre ma santé? C'est ça le gros problème. Pour un religieux, pour un chrétien. Et je vois les moyens en fonction de ma finalité et non pas en fonction d'efficacité. Regardez les moyens en fonction d'efficacité, c'est faire comme tout le monde, c'est descendre le fleuve. Les cadavres descendent plus vite. Vous voyez, c'est intéressant de difficile doit nous donner une lucidité beaucoup plus grande de notre intelligence. Si on fait de la métaphysique, c'est pour être plus intelligent dans notre vie concrète, dans nos examens de conscience. Si on veut faire du progrès, on doit avoir cette auto-éducation. C'est l'Esprit Saint et vous-même qui vous éduquez. Le Père Maître est là, mais c'est pas lui. C'est l'Esprit Saint et vous. L'Esprit Saint demande à chacun d'entre nous cette auto-éducation. Ça, c'est très important. Alors, l'auto-éducation d'Esprit Saint ne peut se faire que si on se place du côté de la finalité. Tant qu'on n'a pas compris la place de la finalité dans notre vie, l'Esprit Saint a beau taper, on n'entend rien. Rien du tout. Parce que l'Esprit Saint, c'est la finalité. C'est extrêmement curieux de découvrir un peu cela, vous voyez, de comprendre cela. Alors, de fait, historiquement, c'est dans le livre des temps qu'Aristote entreprend cette étude. Quelle est la fin de l'être? Le qui est-ce? Qu'est-ce que c'est que l'être dans ce qu'il a dû sa fin, ce qu'il a d'ultime, pas de fondamental. Les deux aspects extrêmes, l'aspect fondamental, la substance, l'aspect ultime, l'acte. C'est donc bien ce livre qu'il faut considérer avant tout dans Aristote. Cependant, il n'est pas inutile de relever rapidement divers autres lieux où Aristote fait allusion à la distinction de l'être en acte et l'être en puissance. Autrement dit, cette distinction de l'être en acte et en puissance, si elle est ultime, elle rayonne sur toute la philosophie d'Aristote. Voyez, quand vous regardez les apories, Aristote reconnaît que la différence entre l'ousia et l'entelecheia, c'est le problème majeur. Il se pose la question, les principes sont-ils en puissance ou en acte? Est-ce qu'un principe est en acte ou est-ce qu'un principe est en puissance? C'est très joli comme question. Vous n'êtes jamais posé la question. Il faut savoir ce que c'est que l'acte. Est-ce qu'un principe est en acte? Est-ce qu'un principe, la découverte d'un principe propre, je ne dis pas un axiome, ça c'est un axiome, mais un principe propre, la substance. Vous voyez, c'est intéressant. La scolastique décadente a considéré la substance comme sujet, capable de supporter tous les attributs. Pierre est gros. Il pèse tant. Pierre est sujet. Il est en puissance, puisqu'il est sujet. Et la scolastique thomiste a considéré que la substance, c'était le sujet. Et on a répété ça pendant des années et des années. L'enquête, c'est pour ça que je peux le dire. En oubliant que dire que la substance est sujet, Aristote dit, c'est ramener la substance à la matière. Donc, la substance devient une réalité en puissance. Elle n'est plus en acte. Elle n'est donc plus principe. Un principe est forcément en acte, puisqu'il est premier. On va voir, après avoir découvert le point de vue de l'acte et de la puissance, qu'est-ce qui est premier? Selon l'ordre génétique, la puissance est première. On commence par être des imbéciles. C'est vrai, pas très intelligent. C'est déjà quelque chose, d'être quelque chose. Puis progressivement, on s'actue. accepter d'être en puissance. Je sais bien que c'est intolérable d'être en puissance. C'est intolérable d'être à la remorque de quelqu'un. Et si ce premier qui est devant nous ne nous tire pas, on reste immobile. C'est pas drôle, quoi. Oui, c'est quelque chose d'extrêmement important de voir que au plan génétique, donc au plan de la croissance, au plan psychologique, qui est toujours un plan génétique, la puissance est première. On devient progressivement en acte. Une fois qu'on a découvert ça, on se supporte. C'est toujours pas si mal, parce que il faut se supporter pour que les autres nous supportent. Quand on ne se supporte pas, les autres ont beaucoup de peine à nous supporter. Et c'est vrai, ça aussi. On est grincheux, quoi. Parce qu'on n'accepte pas d'être en puissance. Dans l'ordre génétique, la puissance est première. Dans l'ordre de perfection, l'acte est premier. Et donc, un principe, parce qu'il est premier, mais nécessairement est en acte. Si les éléments, dit Aristote, si les éléments existent seulement en puissance, il est impossible que rien du tout n'existe. Car il est possible qu'existe ce qui n'est pas encore. Ce qui commence d'être, en effet, c'est le non-être. Mais rien ne commence d'être de ce qui n'est pas puissance d'être. Cette grande découverte de ce que représente la croissance, le devenir. C'est pas honteux d'être en devenir. C'est pas honteux d'accepter d'être novice. Novice dans l'ordre de la sainteté. Parce qu'on peut être très calé pour des tas de choses. On a fait des tas de choses avant. On était considéré comme quelqu'un. On redevient novice de l'Esprit Saint. Le novice est considéré comme rien du tout. Un cardinal vient, voilà le noviciat. Ah, voilà le noviciat. Il garde ça, oui, avec beaucoup d'amour, mais ça, c'est les nourrissons du Saint-Esprit. Les nourrissons du Saint-Esprit. Alors, on passe vite. Et parmi ces nourrissons, il y en a qui sont sous cloche. Ils sont nés avant terme. Ils sont sous cloche. C'est pas drôle d'être sous cloche, tu sais. C'est curieux tout ça, mais il faut comprendre qu'est-ce que c'est d'être en puissance. Moi, je suis persuadé que si on a cette lucidité, on se supporte. Et qu'aujourd'hui, on ne se supporte pas. Alors, on est dans l'angoisse. Ne pas se supporter, c'est d'être dans l'angoisse. Alors, dites qu'on est angoissé. Non, dites que vous ne vous supportez pas. C'est beaucoup plus vrai. Et en disant qu'on ne se supporte pas, on a une possibilité de croître l'angoisse. C'est pas comment on la prend, l'angoisse. Tandis que ne pas se supporter, c'est découvrir en soi les potentialités. Le problème de l'acte est encore introduit d'une manière implicite à propos du bien. Bon, au fond, à travers toute la philosophie d'Aristote, on trouve ça. Appartient-il, dit Aristote, à une même science ou à plusieurs de connaître tous les genres de causes? Comment concevoir qu'un principe de mouvement ou la nature du bien puisse exister dans les êtres immobiles? S'il est vrai, d'une part, que tout ce qui est bon par soi et en vertu de sa propre nature est vain et donc une cause, et que d'autre part, la fin se en vue de quoi? Mais c'est toujours ce qu'Aristote dit. C'est très intéressant de bien comprendre ce que c'est que la fin se en vue de quoi. Voilà ce que c'est que la fin se en vue de quoi. Telos. Ce en vue de quoi? La fin, ce en vue de quoi? Et fin de quelque action? quand vous êtes finalisé, je veux devenir un saint. C'est vrai, je crois que c'est notre vouloir à tous. Pas la peine d'être novicieux, ça ne peut pas devenir un saint. Je veux devenir un saint. Ma finalité, c'est ça qui me donne la force de croître. Autrement, je demeure mal dans ma peau. Quand on dit « je suis mal dans ma peau », analysez ce mal dans votre peau. D'où ça vient ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tout simplement acquérir un tout petit peu de lucidité. Avant, dans le monde d'aujourd'hui, on est tout le temps en mouvement. On n'est jamais lucide. Et on a peur d'être lucide. Alors c'est pas étonnant que dans un laboratoire de lucidité par rapport à la sainteté, c'est le noviciat, laboratoire de lucidité par rapport à la sainteté, on est mal dans sa peau. On dit, mais comment ça se fait avant? C'était très bien. Ah oui, 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 mais vous n'étiez pas lucide par rapport à la sainteté. Vous étiez peut-être très lucide par rapport aux mathématiques. Possible. Mais la lucidité par rapport aux mathématiques ne vous rend pas bien dans votre peau. Parce que les mathématiques, c'est en dehors de moi. L'informatique, très lucide, oui, mais c'est en dehors de vous. Poisonnant au noviciat, c'est que c'est vous. Ça, c'est empoisonnant. Le Saint-Esprit vous regarde. C'est ennuyeux. Parce qu'il voit tout. Là. Et il me donne un tout petit peu de sa lucidité. Alors je m'aperçois constamment qu'il y a des choses en potentialité en moi. Comme c'est désagréable. En entrant, je voyais avant tout entrer. Donc la finale, un but particulier, c'était un moyen, ça veut rien, c'était un but. Et ça me faisait quand même plaisir. Tout le monde n'entre pas au noviciat. Heureusement pour le permettre. Tout le monde n'entre pas au noviciat. Mais ça nous donne une certaine qualité. Et dès qu'on est dans le noviciat, on est un élément au milieu d'autres. Et on aperçoit des tas de choses qui ne vont pas. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire dans cette métaphysique de l'acte et de la puissance. C'est que je crois qu'il y a quelqu'un qui peut nous faire comprendre ce que c'est que l'angoisse. L'angoisse, c'est un manque de lucidité. Ça, absolument sûr. Le grand remède contre l'angoisse, contre être mal dans sa peau, intellectuellement, c'est la métaphysique de l'acte. Divinement, c'est l'Esprit Saint. Il n'y a que l'Esprit Saint qui va supprimer les angoisses. Parce qu'il est toujours en acte. Un être qui est toujours en acte n'est jamais angoissé. Quand je disais ça à mes psychanalystes freudiens, ils me regardaient. C'est très étonné. C'est mais dès qu'on sent qu'on va glisser sur un terrain, qu'on est mal dans sa peau, immédiatement, la finalité. Immédiatement. Je veux être un saint. Tous les matins, vous dites ça en vous réveillant. J'espère. Il y a la raison, vous répétez ça. Je veux être un saint. Alors Seigneur, donnez-moi les moyens. Alors, vous pouvez regarder surtout dans le livre de l'âme, où Aristote montre que l'âme est acte du corps. Ah ! Voyez, comme c'est intéressant. L'âme est acte du corps. Ça montre bien que si vous êtes lucide d'être un être spirituel, votre corps s'actue. Alors vous n'êtes plus mal dans votre peau. les sens et qui part dans tous les sens. Vous perdez le sens de ce que vous êtes. Alors c'est pas étonnant que vous êtes angoissé. Vous savez plus où vous allez. Vous avez l'impression de partir dans tous les sens. Pourquoi ? Ah, parce que vous n'êtes pas assez finalisé. Et c'est en reprenant le sens d'une recherche de la sainteté que toute cette potentialité qui est en vous va se réactuer, se réorganiser. Autrement, ça part dans tous les sens. Gardez un cadavre, il ne faut pas le laisser trop longtemps. Ça part dans tous les sens. Yam fait d'être, hein, déjà il sent. Ça n'a pas besoin d'être révélé pour le savoir, hein, mais c'est quand même dans l'écriture. Le pauvre corps de Lazare. C'est quand même significatif, ça. Je vous prends, alors on est mal dans sa peau. Quand on est un cadavre, on est mal dans sa peau. C'est pas très drôle, hein. Ça part dans tous les sens. Si on est un vivant, on actue le corps. L'âme est acte du corps. C'est très beau, ça. Vous voyez, comme on est loin de Platon. Comme on est loin de Platon, on te dit ça. On dit d'abord que l'âme est forme du corps. Très bien, très bien. Mais c'est bien plus fort de dire que l'âme est acte du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le corps n'a pas d'autre finalité que l'âme. Le corps n'a pas d'autre finalité que l'âme. La finalité du corps, c'est d'être vivant. Et il est vivant par l'âme. Et l'homme, il a une âme spirituelle. Et donc le corps de l'homme, il est finalisé par une âme spirituelle. La fin du corps, c'est de se dépasser. Pour être au service de l'âme spirituelle. Et c'est l'âme spirituelle qui donne le sens à tout le reste. C'est pas l'activité. Ça, c'est la fuite. Je vais m'occuper aux bonnes œuvres. C'est la fuite. Parce que ce n'est pas l'activité qui vous finalise. Qu'est-ce qui vous finalise? La contemplation. Pour la sainteté. Il n'y a que ça. On quitte la cause finale pour regarder la cause efficiente. La cause efficiente, c'est réaliser beaucoup de choses. Alors évidemment, tant qu'on réalise beaucoup de choses, on croit qu'on est le centre du monde. Alors, ça nous fait du bien. Mais en réalité, ça ne nous change pas. Ça change les autres. Changer les autres, c'est très bien, mais premier amour, c'est nous-mêmes. Vous essayez de comprendre comment Dieu réclame de nous aimer. Ça fait partie de notre alliance chrétienne. Et nous aimer, c'est nous aimer dans la complexité de notre être. C'est d'aimer notre corps. On l'a pas choisi. De temps en temps, on dit, j'aimerais bien le corps de mon voisin. Il est mieux que le mien. Mais on peut pas choisir, c'est embêtant. Même pas la nuit, on pourrait prendre en vol. Voler ce corps du voisin. Non. Et dans les métapsychoses, c'est un peu ça. On voudrait choisir le corps de l'autre. Il nous est imposé. On est né dans telle famille. Il y a un atavisme. On a ce corps particulier et il s'accompagnera toute notre vie. Notre âme est créée par Dieu. Ah, ça c'est mieux. Parce que comme mon âme est acte de mon corps et comme mon âme est créée par Dieu immédiatement, c'est donc en actuant le corps, mon âme va mettre une présence de Dieu. à ce moment-là, je ne peux plus ne pas aimer mon corps. Mais voyez bien, c'est par la finalité, par la contemplation. Alors, dans le livre d'État, qui est le grand livre sur l'acte, Aristote, de fait, commence par toute une étude sur la puissance, dunamis. Puissance. Ah, voyez, notre pauvre langage, quand on dit l'être en puissance, et la puissance, pas du tout la même chose. C'est embêtant. L'être en puissance se distingue de l'être en acte. Tandis que la puissance, dunamis, exprime la capacité d'opérer. J'ai la puissance de voir. Mon œil me donne cette capacité de voir. La puissance d'opérer, puissance de faire telle chose. C'est une qualité, la puissance. Ça fait partie des qualités. Tandis que l'être en puissance n'est pas du tout la qualité. C'est la détermination. Alors ça, il faut comprendre hein, tout de suite. Ça, c'est le grand équivoque de tout le néoplatonisme. Le néoplatonisme exalte la dunamis. Chez Plotin, déjà chez Platon, mais c'est surtout chez Plotin. Chez Plotin, Plotin montre comment l'un et le bien s'unissent dans la dunamis. Donc, le sommet de toute la recherche chez les néoplatoniciens, de toute la recherche de ce qui est, c'est la dunamis, la capacité d'opérer. Vous voyez comment la finalité disparaît. C'est ma capacité d'opérer qui te commande. Il y a confusion entre l'être en puissance et dunamis. Parce que l'être en acte et l'être en puissance, cette distinction devient seconde et elle est commandée par la dunamis. Donc, comprenons bien, Aristote commence, parce qu'il est en face de Platon, commence toute son étude sur l'être en acte par le point de vue de la puissance. Qu'est-ce que c'est que la puissance? Et il montre qu'il y a diverses manières de comprendre ce que c'est que l'être en puissance. Il arrive progressivement à regarder ce qu'est le possible. Ce qu'est le possible. Le livre d'État, il faut l'avoir lu. Au moins en seconde année, hein. Même en première année, ceux qui sont déjà un peu plus avancés, qui n'hésitent pas de lire le livre d'État. Je vous avais dit, hein, Heidegger considérait que ce livre d'État, c'est ce qu'il y a de plus grand dans toute la philosophie grecque. Et vient de paraître, en partie, le séminaire de Heidegger sur le livre d'État. Les explications que Heidegger donne sur le livre d'État. Alors, le premier livre est paru, les premiers chapitres. On a déjà un gros bouquin comme ça. Alors, vous voyez, ce sera comme le commentaire de saint Thomas sur saint Jean. Il y aura un premier livre, un deuxième livre, un troisième livre. Tellement Heidegger considérait que c'était quelque chose d'absolument capital. Alors, ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce que veut faire Aristote ? Relativiser la dunamis. la dunamis implique toujours une potentialité. Oui. La capacité d'édifier n'est pas l'acte d'édifier. Et donc, ça implique une potentialité. D'où Aristote va préciser qu'est-ce que c'est que le possible.
Se
déduction synthétique, analogique, pour découvrir l'acte. Ça, il le dit expressément. Or, pour Aristote, l'induction nous fait découvrir un principe. Aristote le dit expressément dans les Seconds analytiques. Il considère donc que l'acte est principe. Donc ça, on ne peut pas le nier. Je dis ça, c'est parce que vous trouverez devant des personnes comme Auban et tous ceux qui le suivent qui diront que l'acte n'est pas du tout un principe chez Aristote, que l'acte est tout simplement un état. On est en acte, on est en puissance. Je dors, je suis éveillé. Deux états différents. Et je dormais tellement bien, je n'ai pas entendu le réveil. Ça peut arriver. Je dormais. Bien heureux ceux qui dorment. Et puis le réveil, ah, c'est l'acte, hein. Quel drôle de bonhomme. Il me réveille. Il me fait passer du sommeil à l'acte. Alors ces deux états. Et alors, c'est le grand chic aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que, au fond, la distinction acte et puissance, c'est tout simplement des états différents. L'état d'être en puissance. L'état d'être en acte. C'est très vieux, ça. Puisque même Avicenne, qui pourtant est très intelligent, pratiquement reste devant les deux états. En puissance et en acte. Au niveau descriptif, c'est ce que vous constatez. Vous constatez que dans l'œuf, le petit œuf de la poule, il y a un poussin en puissance. Il faut manipuler cet œuf de telle façon qu'il y a un petit poussin qui va venir. Donc l'œuf est en puissance, le poussin. Et quand le poussin écarte, je... ah, l'acte, deux états différents. Et pour tous, c'est comme ça. Vous faites la cuisine, vous avez un plat bien préparé, magnifiquement préparé. Vous le mettez dans le four, et puis vous le mettez trop longtemps dans le four, ce qui peut arriver, n'est-ce pas? Alors à ce moment-là, tout est brûlé. L'acte brûle tout. Le feu brûle tout. C'est l'acte. Avant, en puissance, il y avait des promesses. Des promesses étonnantes. Puis quand je m'aperçois que tout est brûlé, je ne peux pas recommencer. Deux états descriptifs. Eh bien, il faut comprendre qu'Aristote, si je prends le texte, hein, je peux très bien ne pas le comprendre, ça, c'est très difficile. Hein. Je vous l'ai dit, c'est le point de vue le plus difficile de toute la philosophie. Donc, c'est pas étonnant que nous mettons beaucoup de temps avant de comprendre. Aristote a dû mettre beaucoup de temps avant de le comprendre. J'ai dit que je ne peux pas me contenter de cela pour interpréter Aristote. Pourquoi ? Parce qu'Aristote dit que pour atteindre l'être en acte, la fin de l'être, il faut une induction synthétique, analogique. Or, pour Aristote, le principe ne peut être atteint que par une induction. Je n'ai pas besoin d'induction pour décrire. Je vois, je constate. Tandis que pour saisir un principe, ah là, c'est tout à fait différent. Pour saisir un principe, il faut induire. Qu'est-ce que c'est que l'induction ? Passer du visible à l'invisible. de ce que je constate immédiatement, l'expérience, à quelque chose que l'intelligence seule saisit. Et quand Aristote dit induction synthétique, Aristote veut nous faire comprendre que d'une certaine manière, cette induction est tellement difficile qu'il faut se servir d'une quantité d'expériences en les unissant synthétiques et en comprenant qu'on retrouve dans toutes ces expériences quelque chose d'analogue. Alors à ce moment-là, l'intelligence peut dépasser le visible, le descriptif, et saisir ce qui est à la source de ce visible, ce descriptif. Et ce qui est à la source, c'est un principe. Et le principe ici, c'est l'être en acte. Donc, comprenez au moins ceci, hein, parce que c'est important, parce que vous serez en contact forcément avec ceux qui diront que Aristote, saint Thomas, n'ont saisi que l'état. J'ai vu hier un étudiant qui avait fait un petit mémoire en Sorbonne sur la découverte de la fin dans l'être. Bien, je lui ai demandé si le professeur avec qui il avait fait ça acceptait. Il m'a dit ah non, il n'a rien compris. Ah, ils se sont battus. C'est très bien, il a quand même passé. Parce que tout le monde dira que être en acte, être en puissance, c'est deux états. Celui qui dort, celui qui est éveillé, c'est facile. Hein. Pas besoin de faire beaucoup de philosophie pour dire que je dors. Puis tous les matins, je m'éveille. C'est évident. À moins qu'on reste toute la journée en dormant. Ce qui arrive de temps en temps. Et quand on a fait toute la journée en dormant, le soir, on a beaucoup de peine de se mettre à dormir. Parce qu'on ne s'est pas éveillé. Il y a des états comme ça que je peux constater, mais ce qui est important, c'est de saisir. Alors c'est là la question, hein. Et la question est difficile. Dans ce qui est en tant qu'être, qu'est-ce qui est l'aspect, qu'est-ce qui est l'ultime, qu'est-ce qui est la fin, ce en vue de quoi tout le reste est ordonné. Et c'est grâce à cette interrogation qu'on découvre l'être en acte. Voici ce que dit Aristote au point de départ, justement, de cette grande découverte inductive. Il dit ceci, donc, toujours dans ce même livre Theta. Sans livre Theta 1048A30. Alors, il dit ceci. Le fait d'exister pour la réalité est acte. Est idée energeia o upargein to pragma. C'est une affirmation. Hein. Le fait d'exister pour la réalité est acte, car il n'est pas à la manière de ce que nous disons être en puissance. Par exemple, nous disons qu'Hermès est en puissance dans le bois, la moitié dans le tout, parce qu'elle pourrait en être retranchée. Nous disons aussi que celui qui possède la science et ne contemple pas, bien qu'il en soit capable, est en puissance. Celui qui contemple est en acte. Seul celui qui contemple atteint sa fin. Si vous ne contemplez pas, puissance. D'où l'angoisse peut pénétrer. Le grand remède à l'angoisse, c'est la contemplation. Puisque par la contemplation, ce qu'il y a de plus spirituel en moi s'actue. Alors, c'est donc bien, il faut bien saisir ça, c'est donc bien la distinction que nous faisons entre deux états de la réalité. L'un que nous considérons en étant en acte, c'est-à-dire non en puissance, et l'autre comme étant en puissance, qui est le point de départ de cette recherche. Car c'est cela qui pose le problème à l'intelligence. C'est ce qui est en puissance que nous atteignons en premier et que nous pouvons le plus facilement découvrir. C'est pour cela précisément qu'Aristote a commencé par cette longue analyse de la puissance. L'acte lui-même, nous le saisissons d'abord négativement. Nous le saisissons comme ce qui est au-delà de la puissance. C'est ce qu'il dit. Le fait d'exister pour la réalité est acte, car il n'est pas à la manière de ce que nous disons en puissance. L'acte lui-même, donc, nous le saisissons d'abord négativement. Nous le saisissons comme ce qui est au-delà de la puissance. Ce vers quoi tend la puissance. Et ce qui donne à celle-ci signification. Il faut donc ensuite regarder l'acte pour lui-même et se poser la question, qu'est-il ? Donc voyez bien, il y a deux connaissances de l'acte. Une première connaissance toute simple que tout le monde peut avoir. Elle est descriptive. C'est un état. La réalité se présente à moi dans un état en acte de perfection, dans un état en puissance. Et l'état en puissance est premier. C'est pour ça que je dis que ce qui est en acte n'est pas en puissance. Et là, c'est descriptif. Et c'est intéressant parce que ça montre bien la manière dont je connais la réalité. Et si je reste à ce niveau descriptif, je mettrai la puissance avant l'acte. Je mettrai la négation avant l'affirmation. Alors, seconde connaissance de l'acte, c'est regarder l'acte en lui-même, pour lui-même. Et on se pose la question, qu'est-il l'acte ? Qui est-il ? Qu'est-ce que c'est ? C'est au moyen d'une induction, à partir de chacun des cas particuliers, réunis selon leur ressemblance profonde, que l'on peut effectuer ce dépassement. C'est ce qu'Aristote souligne en rappelant qu'il ne faut pas chercher à tout définir, mais saisir l'analogie dans une vue synoptique. Ce passage est très intéressant pour ceux qui veulent tout définir. C'est aller contre Aristote. Il le dit explicitement. Un principe ne se définit pas, il se saisit. Qu'est-ce qui se définit ? C'est notre connaissance quantitative. Donc voyez, θ 6 1048 A35 et suivant. Ça fait partie de la lucidité de notre intelligence. Celui qui veut tout définir ne définit plus rien. Notre intelligence n'est pas faite premièrement pour définir. Selon l'ordre génétique, oui. Mais pas selon l'ordre de nature, selon l'ordre de perfection. L'intelligence est faite premièrement pour saisir les principes propres. Voici comment se précise cette démarche inductive. Alors je vous lis le texte d'Aristote. Comme celui qui bâtit à l'égard de celui qui peut bâtir, celui qui est éveillé à l'égard de celui qui dort, celui qui voit à l'égard de celui qui a les yeux fermés, tout en possédant la vue. Ce qui est séparé de la matière à l'égard de la matière et ce qui est élaboré à l'égard de ce qui ne l'est pas. Déterminons l'acte par l'une des parties de cette différence, le possible par l'autre. Mais comme c'est simple. Et tout est là. C'est très extraordinaire, ça. Je voudrais voir comment Heidegger dit ça. Parce que c'est extraordinaire comme chose. L'acte, alors, c'est, je glose, l'acte est donc à la fois celui qui bâtit, celui qui est éveillé, celui qui voit, celui qui est séparé de la matière, ce qui est élaboré. Alors on comprend la réflexion d'Aristote. C'est encore d'Aristote. Toutes choses ne sont pas dites également en acte. Oui. Donc, l'acte, je le saisis analogiquement, selon le plus et le moins. Toutes choses ne sont pas dites également acte, sinon d'une façon analogique. Comme ceci est dans ceci. Comme ceci est dans ceci. Ou vers ceci. Ainsi, cela est dans cela ou vers cela. Voilà les deux actes différents. C'est le hen et le pros. Ça, c'est très grec. Le hen, c'est le temps. Le pros, c'est le vers. L'âme est dans le corps.
Cela est dans cela.